Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
On va vous donner nos impressions sur la keynote Apple, peut-être un petit peu faible pour certains. On a aussi des informations sur la manière dont évoluent les cryptos en Europe et aux États-Unis. Et un petit point sur l'Ukraine, les aspects tech de la guerre en Ukraine, bien sûr. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et on se lance tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. C'est l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mars 2022 et c'est l'épisode numéro 449. Et je remercie très très chaleureusement les patriotes, les nouveaux patriotes qui nous ont rejoints pour financer l'émission, pour lui permettre d'exister. Adam Médéric, Kurgans, Tournet, Sylvain Carisset, Laure de la Faye, d'où de la Faille. Je prononce aussi bien que je peux, de la fée, on va dire comme ça. Nicolas Luquet, François-Xavier Compin, Yacine Domou, Olivier Derez et bien sûr les producteurs Raph et Stéphane Yorek, qu'on remercie tous les mois et qui font partie de cette formidable famille qu'on rejoint, tous les gens que je viens de citer qui permettent à cette émission d'exister. Merci à vous tous, patreon.com/rdvtech si vous êtes intéressés. Et je remercie également Jeff Clavier de se joindre à nous une nouvelle fois depuis la Silicon Valley, venture capitaliste, angel investor, d'une manière générale, une des personnes qui nous donne le pouls de la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff ? Est-ce que tu es en forme ?
Ça va très bien, Patrick. En aussi bonne forme que l'on peut être avec le monde un peu bizarre dans lequel nous vivons.
Écoute, on essaye de le comprendre et ça fait partie de nos nouvelles missions, effectivement. On essaye de comprendre ce qui se passe et vous allez voir que l'aspect tech est encore une fois assez important. Bon, y a un petit moment où on se fait plaisir avec la keynote Apple. On se fait plaisir en même temps. Bon, toi, tu es un super fan de Apple. Donc, je suis sûr que tout ce qu'ils ont annoncé, tu le considères comme révolutionnaire, incroyable, formidable. Ça t'a retourné le cerveau, tout ce qu'ils ont dit, bien sûr.
Bon, tu sais, j'utilise toujours un iPhone 11, donc je ne sais pas si...
iPhone 11 ? Je suis un petit peu déçu, Jeff, j'avoue. Je pensais que tu étais un petit peu
plus... Non, mais je t'avais dit, c'est arrivé à un point où les... La technologie est tellement bonne que tu n'as pas besoin de la changer tous les 6 mois ou tous les 12 mois, malgré ce que Apple voudrait que tu fasses. Non, le truc qui m'a vraiment excité...
Attends, excuse-moi, juste avant de se lancer dans la keynote, et ce que tu dis est intéressant parce qu'on a des rumeurs déjà sur les iPhones de cette année, donc de septembre, qui vont un petit peu dans le sens que tu évoques. Mais juste pour dire, la partie sur l'Ukraine, je sais que certains d'entre vous sont un petit peu... en ont un petit peu assez qu'on parle d'Ukraine. Bon, d'une part, je pense que c'est important, et il y a des éléments qui évoluent chaque jour et chaque semaine, et évidemment, on vous tient au courant des éléments importants de ce conflit, des aspects tech de ce conflit. Mais même si vous pensez que ce n'est pas un truc qui va vous intéresser, je vous encourage à écouter au moins le début de ce segment qu'on fera tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent dans ce domaine et des réflexions intéressantes à faire. Et avant de me lancer, je veux juste dire qu'on fait un AMA, un AMA, un FAQ demain. Alors bon, là, c'est un petit peu tard peut-être pour vous, si vous écoutez cette émission un peu plus tard que l'instant où elle est publiée, mais on en fait un en live. Et c'était un moment qui avait beaucoup plu pour le précédent. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez venir en live à midi sur Twitch le mardi 15 et vous pourrez poser vos questions. Et du coup, bon, on est tous très impatients et on se lance dans la section info. L'info la plus importante de la semaine dernière, c'est évidemment la keynote Apple qui aspire un petit peu toutes les news tech et où ils ont annoncé 4 produits différents. Et 4 produits qui ont un petit peu, je ne vais pas dire déçu, mais qu'on attendait et qui n'ont pas d'impact important, je crois, sur l'ensemble de la tech, comme c'est parfois le cas avec Apple. On a le nouvel iPhone SE, à vrai dire, c'est les prévisions qu'on avait fait à l'épisode précédent en fonction des rumeurs qui se sont avérées assez justes. Mais je vais les mentionner ici. Un iPhone SE 5G, un iPad Air avec processeur M1, donc le processeur Apple, ça c'était un petit peu inattendu. Un nouvel ordinateur, une nouvelle catégorie d'ordinateurs, c'est les ordinateurs studio, qui sont des formats Mac mini, mais un petit peu plus haut, mais des performances, on va dire, vraiment de Mac Pro, ou presque, en tout cas dans cette classe de produits. Et un nouvel écran 27 pouces, c'est la confirmation qu'Apple se remet vraiment à faire des écrans, un écran 27 pouces 5K, le nouveau Mac et l'écran, comme on le disait là encore pour nos prévisions avec les rumeurs la semaine dernière, sont de la nouvelle gamme Studio, qui sont des appareils aux performances de pro, mais à l'utilisation un petit peu plus simple peut-être que des Mac Pro au sens traditionnel où on l'entend. Bon, c'est une gamme un petit peu bâtard, prévue pour l'utilisation professionnelle dans les bureaux, mais quand même assez compacte. Tu disais, Jeff, il y a une annonce qui t'a un petit peu plus intéressé que les autres dans cette keynote d'Apple ?
C'est le nouvel écran Apple.
Ouais.
Donc pour moi, c'est le truc que j'ai utilisé et que j'utilise encore aujourd'hui, c'était la vieille génération d'écran Apple qui était tout intégré avec une seule prise qui te permet de raccorder ton ordinateur. Et j'étais vraiment désolé quand j'ai vu qu'ils avaient abandonné ce produit que je trouvais vraiment super bien intégré. Et donc, d'un seul coup, mes deux écrans Apple ont pris du vieux parce que celui qui vient d'être annoncé est vraiment sympa.
C'est un écran qui a des particularités. Hein. Il intègre une puce A13. Alors, ce n'est pas la dernière puce Apple, mais c'est une puce qui a été utilisée dans les iPhones, iPad, tout ça. Pardon, il y a 2 ans, je crois qu'on en est à 15 maintenant, si je ne me trompe pas. Et donc, elle est un petit peu plus ancienne. Mais ce que ça permet de faire, c'est d'intégrer à l'écran des fonctionnalités comme la fonctionnalité Center Stage, c'est-à-dire que la webcam va suivre votre visage. À vrai dire, ce n'est pas la webcam elle-même, mais c'est en logiciel ensuite. Ils vont centrer l'image sur votre visage automatiquement. Et il y a 6 haut-parleurs dans l'appareil lui-même et il y a une sorte de traitement logiciel du son également. Tout ça est permis par le processeur. C'est des fonctionnalités qui ne seront pas... il y a aussi Siri dans le moniteur. Donc, toutes ces fonctionnalités ne sont pas disponibles si on utilise le moniteur avec un PC, mais on peut quand même utiliser le moniteur avec un PC. Mais bon, voilà, c'est intéressant qu'ils intègrent un processeur dans un moniteur, c'est rigolo. Webcam 12 mégapixels, entre parenthèses, qui est correct pour une caméra de ce type. C'est simplement... C'est marrant parce que toi, ça t'intéresse parce que tu es utilisateur de moniteurs Apple. J'ai l'impression que c'est un petit peu le ton de cette keynote. C'est que des produits qui sont intéressants pour les utilisateurs de produits Apple qui sont déjà dans l'écosystème. Ce n'est pas vraiment une keynote qui était destinée à révolutionnariser les gens qui regardent ça d'un œil et demi, on va dire.
Objectivement, il y avait rien de vraiment super intéressant. Objectivement, le processeur M1 est tellement bon que si tu as des produits qui sont maintenant en train d'utiliser le processeur M1, pourquoi pas ? Ça fait des années que je n'ai pas utilisé mon iPad, donc franchement, ça, je m'en fous. Moi, je sais que je suis enthousiasmé par mon MacBook Pro M1, c'est une machine de folie, quoi.
Ouais, c'est d'autant plus intéressant que le processeur M1, qui était déjà une performance, ce qu'on dit depuis son introduction il y a plus de quelques mois, ça fait déjà 1 an et demi, je crois, c'est qu'ils réussissent à avoir des performances excellentes avec un coût thermique qui n'est pas énorme, mais à vrai dire, même sans considérer le coût thermique, sans le prendre en compte, la quantité de chaleur dégagée par l'appareil, et du coup, la quantité de chaleur détermine un petit peu aussi à quel point on peut pousser le processeur, parce que c'est un élément essentiel de tous les processeurs. Au-delà de ça, il est simplement puissant, et une des choses qu'ils ont annoncé donc, pour leur gamme Mac Studio, c'est le M1 Ultra, qui a cette particularité d'être en fait deux processeurs M1 connectés par une connexion ultra méga rapide qui était déjà présente dans les premiers, mais qui sont sur la même puce, on va dire. Et le fait d'en avoir deux l'un avec l'autre, évidemment, ça veut dire que bah, ils sont beaucoup plus puissants qu'un processeur tout seul. Mais c'est, entre guillemets, un seul processeur. Ce n'est pas qu'il y a des processeurs multiples sur une carte mère, comme on avait pu le voir par le passé chez différents constructeurs. Là, c'est une puce qui intègre l'architecture de deux processeurs différents avec une connexion ultra méga rapide entre les deux, qui était le point faible de ce type d'architecture à plusieurs processeurs. La connexion entre les différents processeurs devait passer par la carte mère, et donc ce n'était pas toujours aussi rapide que ça le pourrait. Bref, c'est un moyen d'augmenter les performances de cette gamme M1 d'Apple. Et bon, les chiffres, comme toujours chez Apple, sont un petit peu vagues, mais ils ont l'air effectivement de répondre aux promesses qu'on pourrait imaginer pour ça. Le processeur M2 devrait arriver dans les mois à venir, possiblement pour un Mac Pro, et le M2 serait, lui, une architecture un petit peu différente du M1. Là, on pousse le M1. Bon, voilà, c'est un truc qui va intéresser les gens qui s'y intéressent déjà, comme je disais. Au-delà de ça, l'iPhone SE 5G, qui est toujours avec le design de l'iPhone SE précédent, qui est celui de l'iPhone 6, donc qui commence à dater, iPhone 6, iPhone 8, en fonction de comment on regarde, toujours à un tarif de, je crois, autour de 500€ en France. Le précédent, contrairement à ce que s'imaginaient certains et qu'on avait imaginé qui pourrait être intéressant, bah l'iPhone SE précédent n'est pas encore en vente avec un prix réduit. Donc ça, c'est une chose qu'on avait suggérée, qui ne s'est pas concrétisée. Et puis au-delà de ça, l'iPad Air M1, qui est maintenant assez proche de l'iPad Pro, mais l'iPad Pro devrait être renouvelé là dans quelques mois. Bref, franchement, rien d'incroyable. Une chose que je veux explorer un tout petit peu plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, et on peut se reposer sur les rumeurs de la fin d'année pour en parler. Alors, d'une part, il y a nouveau MacBook Air, nouveau MacBook Pro 13 pouces, processeur M2, etc., etc., qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Mais surtout, il y a une rumeur, selon Min-Chi Kuo, l'analyste réputé, sur l'iPhone 14, qui serait équipé du processeur de l'iPhone 13, c'est-à-dire le processeur A15, et l'iPhone 14 Pro serait celui qui serait équipé du nouveau processeur, donc le processeur A16. Mais donc, ça veut dire que l'iPhone 14 aurait le même processeur que l'iPhone 13, et on peut se dire deux choses à ce moment. D'une part, est-ce que... Alors, vous savez quoi, je vais te laisser parler un tout petit peu, Jeff. Tout petit peu, hein. Mais ouais, un iPhone 14 avec processeur de l'année dernière, c'est pas si gênant, je pense.
Oui, pour moi, en fait, la fonctionnalité, c'est ce que c'est. Est-ce que le téléphone fait ce qu'il a à faire? Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il le fait vite? Et objectivement, c'est pour ça que je suis resté à ce jour le 11. Je regarderai le prochain. Mais pour moi, c'est devenu... Et on avait discuté de ça à l'époque. Les fonctionnalités et la rapidité et la batterie sont tellement bonnes que tu ne peux pas justifier de dépenser $1,000,000 pour acheter un nouveau téléphone juste histoire d'être à jour, quoi. Donc pour moi, la question, c'est quelle est la fonctionnalité qui va faire que tu regardes et tu te dis, ouais, bah, c'est le moment d'upgrader. Et peut-être que, in fine, ta garantie fonctionne plus, t'as un problème, bon, bah, ok, t'en changes.
Ouais, c'est vraiment une tendance qui s'est pas démentie depuis quelques années, dont on parle de ça. D'ailleurs, moi, j'avais gardé mon iPhone 10 pendant 3 ans, je crois, c'était la première fois. Là, je suis toujours très content de mon iPhone 12. Je ne pense pas en changer cette année. Peut-être, on verra ce qu'ils annoncent. Mais c'est vraiment une tendance qui se confirme et qui se confirme sur tous les téléphones. Là, on peut se dire... Alors, il y a deux moyens d'aborder la chose. Est-ce que l'iPhone 14, ils y gardent le processeur de l'année dernière pour dire bah, l'iPhone 14 Pro, celui-là, regardez, il est vraiment nouveau, il est cool, pour pousser les gens à acheter celui-là, donc le modèle plus cher. Ou alors, est-ce qu'ils ont des fonctionnalités qui seront intéressantes avec les nouveaux modèles d'iPhone? Ça semble peu probable qu'il y ait des choses qui changent vraiment la perception des téléphones, mais est-ce qu'ils se disent bah, on a déjà des fonctionnalités qui seront intéressantes avec l'iPhone 14, Et du coup, on n'a pas besoin de mettre un processeur vraiment plus puissant là-dedans. Alors, il y aura peut-être un peu plus de RAM, ce genre de choses, mais vraiment plus puissant là-dedans, parce que les fonctionnalités nouvelles feront le boulot. Et du coup, on garde le nouveau processeur pour la gamme Pro, qui donne encore plus envie aux gens d'upgrader, parce que peut-être que les appareils photo de meilleure qualité n'étaient plus suffisants pour motiver les gens à acheter un modèle Pro plutôt qu'un autre. C'est vrai que les modèles non Pro, ces dernières années, étaient quand même très performants. Déjà, il y avait peu de raisons d'aller vers un Pro, à moins de vraiment vouloir des photos spécifiquement. C'était le seul avantage du Pro, j'exagère, mais à peine.
Oui, et objectivement, ça, c'est ce que j'ai. J'ai le 11 Max Pro, et c'est un super téléphone, et je pense que le nouveau processeur dans l'offre Pro, ce sera peut-être ce qui m'amène à changer.
Ouais, tu vois. Peut-être. Bon, ben voilà pour cette conférence Apple. Hein. Clairement, ce n'était pas la plus mémorable. Il y en aura d'autres dans l'année. On y reviendra quand elles arriveront. Une petite chose tout de même à noter, qui était un petit détail dans la conférence, c'est qu'ils ont annoncé l'arrivée de Friday Night Baseball sur Apple TV+. Et donc, ça, c'est un événement sportif. Alors, c'est un rendez-vous sportif aux États-Unis, le baseball du vendredi soir. Et c'est le premier... c'est le premier pas que fait Apple en direction du sport, et on sait que le sport est une motivation importante pour l'achat ou l'abonnement à ce type de service. Aux États-Unis, la Major League Baseball, c'est un truc qui est populaire. Peut-être qu'en Europe, on pourrait imaginer. Alors,
extrêmement populaire.
Ouais.
C'est massif.
Est-ce que c'est plus massif que le football ou que le basketball, le baseball ou le Friday Night Baseball spécifiquement ?
Très honnêtement, je me talque complètement du sport américain, donc je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Mais en tout cas, je peux te dire que oui, je pense que c'est plus important que le basketball, mais pas que le football.
Ouais.
Le football, le Super Bowl, qui est la finale du championnat américain, je crois est le plus gros événement télévisé aux États-Unis, mais c'est quelque chose d'énorme. Et donc c'est vraiment intéressant de voir Apple dans la guerre des streamers aux États-Unis prendre ce pas. Bon, c'est pas, ils manquent pas de cash, hein, donc ils ont les moyens.
C'est ça qui est intéressant. S'ils se mettent à acheter du sport pour agrémenter leur service de streaming, on peut tout à fait imaginer qu'ils commencent à lorgner du côté du football, par exemple, où il y a eu déjà des opérations de fait du côté du football en Europe. Et à vrai dire, il y a même, on peut imaginer que d'autres sports même... Enfin, je sais que le basket américain est assez populaire en France, mais même ça, ça pourrait être quelque chose d'un atout pour Apple TV+ en France. Bon, après, je suis sûr que ce type de contrat se fait géographiquement, et donc le Friday Night Baseball sera uniquement aux États-Unis. Encore que, on ne sait pas, le baseball n'est pas très populaire en France. Peut-être qu'ils ont dit, la MLB a dit, bon allez, on vous file le reste du monde aussi en même temps. Vous rajoutez un petit milliard et on vous met ça dans le panier.
Exactement.
Donc voilà. Donc voilà pour cette partie Apple, et c'est tout pour les infos vraiment importantes à retenir. Une autre info quand même importante à retenir avant de parler de crypto et d'Ukraine, c'est que vous pouvez soutenir le Rendez-vous Tech par Patreon, patreon.com/rdvtech. Et si vous appréciez l'émission, et si vous voulez des émissions sans pub, si vous voulez les time codes pour passer les passages qui ne vous intéressent pas forcément, si vous voulez des contenus bonus plutôt sympathiques, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et participer au financement de l'émission et au financement d'un créateur que vous appréciez, j'espère. Si vous m'écoutez, j'espère que c'est parce que vous m'appréciez. C'est pas genre vous hate écouter, genre ah, j'écoute mais je le déteste. Donc si vous appréciez ce que je fais, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Merci beaucoup à vous tous.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et on avance maintenant du coup dans le reste de l'actu. Avec des sujets qui sont quand même un petit peu graves aussi. Mais avant de parler des choses vraiment graves, une question sur les crypto-monnaies. On en parle depuis un bon moment. Les crypto-monnaies sont à la frontière de la régulation, de la législation, et l'Europe et les États-Unis semblent prendre des chemins un petit peu différents. L'Europe a aujourd'hui est en train de voter, le Parlement européen est en train de voter sur une loi qui, de facto, interdirait les bitcoins et l'Ethereum. Par quel biais ? Eh bien, la loi est en train d'établir le fait que la preuve de travail, qui est la méthode de validation des opérations sur la blockchain, qui utilise donc de la consommation électrique pour valider une opération, eh bien cette preuve de travail serait de facto interdite. Et donc, la blockchain Bitcoin serait interdite en Europe, rendez-vous compte, l'utilisation de la blockchain serait interdite en Europe. Alors peut-être que ça touche les services spécifiquement et les entreprises et pas juste les particuliers, mais c'est quand même un frein au développement de cette technologie, évidemment. Et l'autre grosse blockchain, c'est la blockchain Ethereum, qui, en fait, pour résumer, la blockchain Bitcoin ne fait fonctionner que la crypto-monnaie Bitcoin. Ça ne sert à peu de choses près qu'à ça. La blockchain Ethereum est le pilier principal de toutes les autres initiatives de crypto-monnaie et de NFT et de tokens en tout genre et de smart contracts et de tout ça. Alors, la blockchain Ethereum, elle est en train, depuis des mois, hein, on nous promet qu'elle est en train d'opérer sa transition de la preuve de travail par la preuve de proof of stake. Je ne me souviens plus du nom en français. Je suis désolé, mais c'est un moyen de
propriété.
De propriété, peut-être. D'implication. et elle est en train de faire ça. Et donc, quand elle aura opéré cette transition, ça permettra cette plateforme, finalement, d'être en accord avec la MiCA, qui est la loi en question, MiCA, c'est la Market in Crypto Assets, cette réglementation, la réglementation MiCA. Et donc, la blockchain Ethereum pourra éviter cette interdiction sur laquelle sont en train de voter les parlementaires. Entre parenthèses, quand une loi est votée au Parlement, il faut ensuite qu'elle soit implémentée dans chaque pays, etc. Donc, ça ne veut pas dire que c'est interdit demain. Mais dans le même temps, les États-Unis, eux, par la voix de Joe Biden, sont en train d'étudier avec un petit peu plus de bienveillance les crypto-monnaies avec une initiative de Joe Biden qui encourage et qui enjoint les administrations américaines à étudier la faisabilité de tout cet écosystème, avec bien sûr un petit bémol sur la question de l'environnement, puisque la consommation énergétique est importante. Il le mentionne, mais ils vont avoir quelques mois pour savoir, plutôt que d'approcher le truc en disant « on va interdire certaines choses », là, ils vont dire « qu'est-ce qu'on peut autoriser ?» L'importance du dollar, évidemment, dans le domaine financier étant une chose que l'Amérique ne veut pas perdre. Ils se disent, bah, peut-être qu'il faut qu'on soit sur le devant de la scène sur les crypto-monnaies aussi, pour ne pas que ça nous passe sous le nez. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent aussi en ligne de compte là-dedans. Si on parle uniquement de l'initiative comme ça, de la, la manière dont appréhendent la chose les États-Unis et l'Europe, je sais que tu n'es pas super fan, Jeff, des crypto-monnaies. On ne va même pas parler de NFT et de ce genre de choses, mais j'ai l'impression que tu n'es pas super fan de crypto-monnaies, de tokens, de tout ça. Quel regard est-ce que tu portes en même temps en tant qu'investisseur et quelqu'un qui essaye de pousser à l'innovation sur ces deux différentes approches ?
Je pense qu'il faudrait faire un épisode spécial pour parler de crypto et de Web3. Mais... Non, c'est ce que j'ai toujours... Je pense qu'il y a une utilisation de tout ce qui est crypto, blockchain, etc. Et on est en train, en fait, de trouver des applications qui commencent à être plus intéressantes. Ça a été le Far West depuis le début. Et en fait, je vois cette notion du gouvernement américain qui essaye maintenant de rationaliser le fait que les crypto-monnaies sont là pour rester et les rentrer dans un cadre de législation qui leur permettre d'être légal, d'accord ? Parce que pendant très longtemps, tu as les pro-crypto qui ont essayé de dire non, on fait ce qu'on veut et ça doit être complètement libre, et ça, c'était pas réaliste. Donc le fait que, et tu vois par exemple Chairman Gensler, qui est le nouveau patron de la SEC, qui est l'entité de régulation des marchés financiers, est pas un super pro-crypto, mais il comprend que c'est un élément nécessaire et qu'il faut légiférer. Le dire c'est illégal, ce serait débile. D'accord ? Et donc, je pense que essayer de définir des régulations qui ont du sens de manière à ce que le monde des cryptos puisse naturellement rentrer dans le cadre des marchés financiers plus traditionnels, je pense que c'est positif. Et comme tu le disais, Ethereum aujourd'hui est utilisé pour beaucoup plus que les échanges de monnaie. En fait, je suis investisseur depuis 3 ans dans Makerspace, donc un des plus gros forums de vente et d'achat de NFT. Et donc, j'ai parié là-dessus et je suis aussi un investisseur et je suis sur le board de Messari, qui est un peu le Bloomberg du monde de la crypto. Donc, en fait, malgré le fait que j'ai été un peu réticent sur beaucoup d'applications qui n'avaient pas de sens pour moi, j'ai essayé de faire des investissements qui avaient du sens et je pense que c'est fait pour rester. L'approche européenne de tout interdire, c'est débile. Je pense que ça n'a pas de sens.
Ce qu'il y a, à vrai dire, au-delà de l'interdiction, on va dire, un petit peu, comment dire, de faire une interdiction stricte, qu'on peut comprendre, parce que vraiment, le principe de la preuve de travail, son principe est de consommer de plus en plus d'énergie. Mais en réalité, ça va, on l'espère, hein, à un moment, finir par ne s'appliquer qu'à la blockchain Bitcoin, parce qu'ils vont bien finir par la faire à un moment sur Ethereum, leur transformation en proof of stake. Et à partir de là, la question environnementale ne se posera plus vraiment pour Ethereum. Il y aura évidemment de la consommation d'énergie comme tout système informatique, hein, ça c'est évident, mais ça ne sera pas du tout une chose à part dans le monde de l'informatique, parce que c'est prévu pour consommer de l'argent, de l'énergie. Par contre, la Bitcoin, le Bitcoin, moi, j'ai jamais entendu une suggestion du fait de passer en proof of stake plutôt qu'en proof of work. Et là, ça va rester un énorme problème. Et donc, de fait, si c'est voté, bah, le Bitcoin va être... il faudra voir les détails de la manière dont c'est implémenté, mais le Bitcoin va être, pour les services de type Bitcoin, interdit dans l'Union européenne, il semble, hein, d'après ce que je comprends de la MiCA, de la Markets in Crypto Assets, loi. Bon, à voir comment ça évolue. Je voulais aussi.
C'est déjà. Cet aspect-là est déjà couvert par les Chinois. Hein. Les Chinois ont aussi interdit le mining de crypto parce qu'il y avait énormément de la consommation. Enfin, pas énormément. Il y avait une partie non négligeable de la consommation chinoise qui était en fait utilisée par les miners. Et ils l'ont interdit.
Tout à fait, oui. Ils ont fait la chasse aux mineurs il y a quelques mois déjà, tout à fait. Ouais.
Tout à fait. Et donc, il y a pour que Bitcoin éventuellement continue à se développer et à perdurer, en fait, il est possible qu'ils aient besoin de trouver une solution qui soit pas aussi brute de fonderie au niveau calcul, quoi. Parce que c'est ça, les algorithmes, ils sont super bêtes et ils demandent beaucoup d'énergie, c'est ça qui est dommage.
Je me demande si effectivement au final on n'arrivera pas à une conclusion qui sera comparable parce qu'effectivement la Chine a dit stop, l'Union européenne est en train de dire stop et dans le décret de Biden qu'on évoquait, il y a aussi une demande à certaines institutions d'étudier la manière dont ça impacte l'environnement. Et du coup, je me demande s'ils n'arriveront pas aussi à la même conclusion et dire « bah oui, mais proof of work, c'est juste pas possible ». Et comme Ethereum va passer à la proof of stake, peut-être même que ça les motivera à le faire plus vite, mais bon, j'imagine bien que c'est une grosse opération, peut-être que ça poussera les gens qui ont intérêt à ce que le Bitcoin continue à passer au proof of stake aussi. Bon, après, c'est tout cet écosystème de gens qui ont investi dans énormément de machines pour avoir une capacité de minage et de calcul supérieure qui serait démolie. Et du coup, je me demande s'il sera possible pour... Enfin, même s'ils font un fork avec un Bitcoin qui est en proof of stake, je ne suis pas sûr que le Bitcoin qui est en proof of work ne disparaîtra pas parce qu'il y a plein de gens qui ont énormément d'intérêt à ce que ça continue, parce qu'ils ont beaucoup investi. Bon, bref, on continuera à suivre ça. Un petit mot pour dire que les volumes d'échanges de NFT ont beaucoup chuté ces dernières semaines. On a eu une chute sur OpenSea de 80%. Ça touche spécifiquement les NFT. Toi, tu nous disais des investissements sur des plateformes d'échange de NFT. Est-ce que tu crois que c'est la hype qui est en train de mourir, qui est en train de baisser, mais que le NFT étant un système intéressant à la base, il va perdurer? Ou est-ce que c'est les fluctuations naturelles du marché? Ou est-ce qu'il est possible... Bon, ça, tu ne vas pas nous dire peut-être que les NFT vont juste passer de mode et disparaître si tu as investi dedans, mais... Qu'est-ce que tu en penses de l'évolution de ces volumes?
Non, je pense que c'est toujours comme ça dans les phases d'adoption de nouvelles technologies où les gens se jettent dessus histoire d'essayer le truc et puis ils se rendent compte que c'est pas forcément aussi intéressant, utile, justifié, etc., etc. Et puis il y a eu aussi énormément de spéculation, surtout sur les plateformes comme OpenSea. Et c'est pas étonnant, je pense que c'est normal qu'il y ait une baisse comme ça. Et in fine, je ne vois pas comment l'art digital pourrait disparaître. Je veux dire, c'est fondamentalement une expression de ce que les artistes veulent faire. Et tu ne peux pas, quand tu vois, parce que bon, j'ai passé pas mal de temps à regarder ce que font les artistes sur Makerspace. Et ce sont des rendus que tu ne peux pas faire sur dans un monde physique. Ça doit exister dans un monde digital. Et je pense que ça va être intéressant de voir comment ça évolue. Et c'est normal que la spéculation s'arrête un peu. Parce que les plateformes, au niveau de Makerspace, on a essayé d'éviter ça au maximum. Mais OpenSea, ils font du volume. Et donc, ils sont foutés, mais ils sont obligés de mettre ça sous contrôle. Et donc c'est en partie ça, puis c'est aussi le fait qu'il y a moins de gens qui vont s'amuser à acheter des Bored Apes ou des trucs comme ça.
Ouais, la vague de hype est peut-être en train de retomber un petit peu. Il y a ces fluctuations parce que moins de gens le découvrent, mais Makerspace est très tourné vers les créateurs effectivement, donc peut-être que c'est une approche un peu différente. Foxconn a arrêté ses opérations, certaines de ses opérations à Shenzhen, suite à un lockdown qui a été imposé par la Chine. Alors ça dure à ce stade une semaine, une dizaine de jours, et c'est évidemment dû à la pandémie, hein, on s'en doute, le nouveau variant qui est encore plus transmissible, c'est le nouveau variant d'Omicron, enfin vous savez, hein, je suis sûr, mais qui se transmet encore un petit peu plus, qui provoque un rebond épidémique un petit peu partout en Europe. On verra comment ça, ce que ça implique. Mais donc Foxconn a arrêté ses opérations et ça risque d'impliquer les iPhones notamment, et en plus de la santé publique, hein, bien sûr. Mais donc problèmes.
Ils ont transféré leur production ailleurs, je crois, non ?
Alors c'est possible, mais du coup ça veut dire que ils vont avoir d'autres choses qui vont être retardées. Ce que je veux dire, c'est que il est possible que ces nouvelles problématiques empirent ou en tout cas prolongent les problèmes de pénurie qu'on peut avoir dans le domaine de la tech et des processeurs. Là, on a l'exemple de Foxconn, mais peut-être que c'est d'autres constructeurs qui sont affectés également. Allez, quelques mots sur l'Ukraine. Comme je vous disais en début d'émission, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent au niveau de la tech. Et la première d'entre elles, c'est un nouveau système, un site hein, tout simplement, qui s'appelle 1920.in, qui permet à n'importe qui dans le monde d'envoyer des informations, enfin d'envoyer un mail ou un SMS à une personne en Russie, une personne au hasard. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu une liste de 20 millions de numéros de téléphone et de 140 millions d'adresses e-mail en Russie. Et quand vous allez sur le site 1920.in, ils vous donnent une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Alors, il y a plusieurs sous-domaines, hein, mail.machin, etc., etc. Et vous pouvez contacter vous-même directement une personne qui est en Russie. Évidemment, l'idée est de court-circuiter la censure assez terrible qu'on voit en ce moment en Russie, avec tous les moyens de communiquer avec l'extérieur qui sont en train d'être coupés. Et on va en reparler dans un instant. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau, de différent, d'intéressant. Et c'est pas... Alors, on peut se dire, est-ce que c'est un moyen de transformer chaque personne dans le monde en troll qui va envoyer... Enfin, en troll, entre guillemets, qui va envoyer des messages en Russie, un petit peu comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, avec des gens qui vont envoyer des informations peut-être trompeuses ou même des infox sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je dirais que c'est vraiment pas la même chose, puisque c'est des vraies personnes qui vont communiquer avec d'autres vraies personnes directement. Et puis surtout, la grosse différence, c'est que en Russie, le gouvernement est en train d'essayer de fermer le pays, donc de n'avoir aucune information. Et là, c'est un moyen de percer, du coup, cette sorte de grande... qui n'est même pas une muraille, qui est une nuit qui tombe sur le pays, et donc d'envoyer des informations qui percent la censure, quoi. Alors évidemment, les personnes qui ont essayé ce service ont eu énormément de gens qui n'ont pas répondu. Certains ont répondu de manière agressive, certains ont répondu de manière beaucoup plus normal, simplement dire « Ah oui, mais vous êtes qui ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a même quelqu'un qui disait qu'on lui a demandé de prouver qu'il était américain, et donc il a pris une photo de lui avec son pistolet, mais pas genre agressif, pour dire « Regarde, moi j'ai un flingue, donc évidemment je suis américain. » C'est vraiment un truc intéressant. Au début, les gens sont surpris. J'imagine que si ça s'utilise pas mal, peut-être qu'on en entendra parler à l'intérieur du pays et que les Russes commenceront à se dire « Ah oui, bah, c'est un truc comme ça qui fonctionne. » Je suis sûr que le fait de répondre est un petit peu risqué pour certains.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce sera un moyen ou à un moment ou à un autre, ce sera interdit aussi, puisque clairement, ils sont en train de mettre en place une censure qu'on n'a quasiment jamais vue.
Bah, c'est difficile à interdire parce que c'est vraiment des emails directs d'une personne à l'autre. Ça peut peut-être se filtrer. Les messages par SMS, ça peut aussi se filtrer dans le pays, c'est possible. Mais c'est quand même, tu vois, un petit peu plus difficile, je pense, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire d'interdire toute forme, toute source d'information qui n'est pas contrôlée par l'État. Bon, ça pourrait donner lieu à toute une conversation entière, ce service, mais je trouve l'idée intéressante. C'est sûr que c'est pas parfait, c'est pas, ça reste risqué, comme tu le disais, Jeff, pour les Russes eux-mêmes. Et puis après, ça peut être utilisé par les autorités russes pour encore plus, comment dire, encore plus perturber le flot d'informations, évidemment. Mais c'est vraiment, en fait, là où ça me paraît intéressant, c'est que ils ont fermé l'accès à toute source d'informations par Internet externe. Et là, on utilise un truc qui est tout bête, c'est l'envoi de SMS ou l'envoi d'email. C'est ingénieux comme méthode de, enfin comme manière de procéder.
Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile en fait à contrôler, parce que ça voudrait dire que tu dois filtrer tous les emails et tous les textes, etc. C'est pas aussi facile que de bloquer un service comme Facebook, Instagram, ou etc. Quoi.
Exactement. Et donc, alors, bien sûr, tu pourrais mettre en place des filtres parce qu'ils ont tous leurs services, ont leur serveur en Russie, avec accès au serveur pour les autorités. Donc, ils peuvent mettre en place des filtres et filtrer toutes les adresses e-mail qui viennent d'un autre pays que la Russie elle-même et regarder ce qu'il y a dedans. Évidemment que c'est possible, pareil avec les téléphones. Mais bon, c'est un autre type d'opération. Et à propos de censure, justement, Twitter et Meta, donc Facebook, ont censuré l'ambassade de Russie à Londres, qui a commencé à faire à se faire le relais de la désinformation russe. Et du coup, bon, ça, c'est pas très très surprenant. Je vais pas vous donner les exemples précis, mais vous pouvez imaginer. Et du coup, la Russie a banni Instagram et a catégorisé Meta comme organisation extrémiste. Et bon, voilà, organisation extrémiste, ça veut dire certaines choses dans le pays, en Russie. WhatsApp n'est pas affecté, par contre. C'est uniquement Facebook, parce que WhatsApp, c'est un moyen de communication plutôt qu'un réseau. Il faut mentionner à ce stade une décision qu'a pris Meta. Ils ont décidé de ne plus considérer les menaces violentes comme les menaces de mort envers les Russes en Ukraine comme des choses qui contreviennent à leurs conditions d'utilisation. Et spécifiquement en Ukraine uniquement. C'est pas dans le monde entier, hein. Si vous commencez à devenir, je sais pas moi, russophobe et que vous commencez à insulter les pauvres Russes qui n'ont rien demandé, qu'ils soient en Russie ou ailleurs dans le monde, c'est pas autorisé. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est que en Ukraine, pendant une invasion, si quelqu'un dit, si quelqu'un lance un message à mort les Russes ou à mort la Russie, ils sont en pleine guerre, ils ont été envahis. Ce dont on se rend compte, c'est que bah, les règles ne peuvent pas s'appliquer. Enfin, DuckDuckGo a également déclassifié ou déranké les médias de désinformation russes sur leur moteur de recherche. DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche. Et c'est intéressant parce que DuckDuckGo, ils sont censés être complètement neutres. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Et là, ils ont downranké certains sites. Et pour moi, ce que ça veut dire, à la fois cette histoire de Facebook qui ne punit plus sur son réseau les gens qui vont s'énerver contre les Russes ou qui envoient des menaces de mort, je ne sais pas si elles sont considérées comme de véritables.
Ils ont enlevé Poutine, en fait. Ils ont annoncé ça aujourd'hui, que tu pouvais en fait te plaindre des Russes et menacer les Russes, mais tu pouvais pas appeler à la mort de Poutine.
Ouais. Mais du coup, ce que ça dit pour moi, ça et DuckDuckGo et tout le reste, c'est que on est un petit peu en train de constater à quel point les règles universelles pour un service global, dans toutes les situations, à tous les moments, ne peuvent pas fonctionner. Et on en avait déjà des indices ici et là, et ça fait longtemps que ça couve, hein, c'est pas un truc qui est complètement nouveau, mais pour moi, là, c'est la dernière preuve que les règles d'utilisation de Facebook, ça peut pas être les mêmes pour tout le monde, partout et tout le temps. Et c'est la conclusion pour moi de ce qui se passe là, c'est que il faut les adapter. Enfin, il faut les adapter. Ils sont obligés de les adapter, que ce soit Facebook ou Twitter ou quelqu'un d'autre. Ça fonctionne pas pour tous les sujets, toutes les situations, quoi.
Surtout, c'est malheureusement une guerre, c'est une invasion qui se passe en temps réel et que tu retrouves, en fait, tu vois ce qui se passe sur social media et c'est aussi là où la technologie est un acteur ou un supporteur. Donc Telegram qui est énormément utilisé sur le théâtre de situation, et donc les boîtes de technologie ne peuvent pas en fait ne pas intervenir, ne pas prendre une position, même si ça impacte leur business, quoi. Ouais.
C'est exactement ce qu'ils ont essayé de ne pas faire pendant des années. Et là, ils ne peuvent pas ne pas faire, quoi. T'as raison.
Et donc, ils ont pris le parti. Et il y a cette tendance globale de mettre la Russie sous un espèce de cocon pour essayer de les forcer à arrêter donc leur invasion. Bon, ça n'a pas marché du tout pour le moment. Je ne sais pas du tout où ça va aller. Ouais. C'est un peu la question. C'est bon, OK, on en fait des parias, mais comment on sort de cette situation ? Mais c'est vrai que la tech doit prendre une position, et tu ne peux pas dire je ne suis qu'une plateforme, donc c'est pas mon problème.
Oui, la pression est faite sur les populations, évidemment, pour qui il y avait en Finlande, il y a un éditorial intéressant sur la Russie. Ils disent les Russes sont toujours tiraillés entre leur poste de télévision et leur frigo. Leur poste de télévision leur dit tout va bien, et au bout d'un moment, ils peuvent plus ignorer que leur frigo, il va pas tellement bien que ça et qu'il est un peu vide. Et alors là, ça touche à ça, mais ça touche aussi à la technologie, etc. Et donc, le moyen de faire pression sur les populations est important parce qu'il fait que les populations se rendent compte aussi que la situation n'est pas celle qu'on leur dit, qu'on leur présente dans les médias, surtout avec cette censure accrue qu'on constate depuis le début de l'invasion. Et d'ailleurs, pour finir, on peut parler de TikTok. Il y a eu deux approches, là encore, assez intéressantes du gouvernement russe et du gouvernement américain. En Russie, alors ce n'est pas directement lié au gouvernement, hein, mais peut-être que le raccourci n'est pas si compliqué à faire, il y a des influenceurs TikTok qui ont été payés. Il y a eu une enquête très intéressante de Vice avec des groupes sur Telegram utilisés par des acteurs qui ont tout à coup désactivé les groupes et effacé les groupes quand ils se sont fait trouver. Payer des sommes dérisoires. Hein. J'imagine qu'avec l'argent était assorti d'une menace sympathique. Des influenceurs qui ont des centaines de milliers, des millions de followers, qui sont mis à dire des messages, mais qui se recoupaient exactement, qui étaient des mêmes parties de textes lus, en soutien à la guerre en Ukraine. Et donc, il y en a eu des dizaines qui se sont mis à tout à coup faire ces messages-là. Et encore une fois, ils ont eu des messages envoyés par quelqu'un, ils les ont lus. Et aux États-Unis, un truc qui pourrait sembler similaire, mais qui, à mon sens, n'est pas du tout la même chose, il y a une organisation qui s'appelle Gen Z for Change, donc Génération Z pour le changement, qui a eu un briefing de l'administration Biden sur la situation en Ukraine. Et on pourrait dire, bah regarde, c'est la même chose, ils mettent le gouvernement, dit aux TikTokers quoi dire, et la manière de considérer... Alors d'une part, ils n'ont pas été payés, ça c'est la base, mais en fait, la manière dont il faut le comprendre, c'est que les influenceurs sur TikTok sont un média d'information pour une énorme partie de la génération, de la population. Et en fait, c'était un press briefing pour ces gens-là. Alors, il faut espérer qu'ils aient le discernement de comprendre ce qu'on leur dit eux aussi, mais c'était un communiqué, enfin, pas un communiqué de presse, mais une réunion de presse de la Maison-Blanche, de la même manière qu'ils le font pour les médias traditionnels, mais pour un groupe d'influenceurs TikTok. Et c'est tout à fait, à mon sens, tout à fait compréhensible. J'espère que ces gens-là sur TikTok seront assez matures pour comprendre ce qu'on leur dit et la manière dont on le dit. Mais évidemment, c'est une approche qui est quand même assez différente de « on vous paye pour lire un texte et on vous explique ce qui, selon nous, se passe dans le pays ». D'autant plus qu'il y a beaucoup de désinformation sur TikTok aussi. Et donc, il n'est pas forcément... néfaste d'avoir une source d'autorité qui a un tout petit peu de légitimité là-dedans, qui aille leur en parler. Et dernière chose, bon allez, pour finir avec un tout petit peu, un truc un tout petit peu moins tragique, la Russie a visiblement légalisé le piratage en représailles aux coupures de toutes les sources de médias, bah, les jeux, les films, la musique et tout ça, le piratage est désormais légal en Russie, donc bah, ils vont pouvoir s'échanger tous les médias qu'ils voudront sur, enfin, légalement. C'est un moyen assez malin de mitiger un petit peu l'impact des blocages de médias, quoi. Et voilà pour notre émission qui est un petit peu plus courte que d'habitude, mais merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir prêté ton expertise, Jeff. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir dans l'émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Ça fait toujours très plaisir de te retrouver, Patrick. Et congratulations pour le numéro 449. J'arrive pas à croire.
C'est une étape importante, le 449, quand même, c'est vrai.
Exactement. Allez, grosse bise à tous. Je vous laisse.
Allez, à dans un mois. Ciao Jeff, ciao à tous et à la prochaine dans une semaine pour le rendez-vous tech. Évidemment, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission et Note Patrick pour tout ce qui est réseaux sociaux et tout le reste. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.